Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Victor Cachard autour de son livre « Histoire du sabotage 1, des traînes savates aux briseurs de machines » paru aux éditions Libre, le 9 mai 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes et tous et merci d'être là pour une présentation qu'on avait prévue au cœur des manifestations contre la loi retraite. Avec l'Université populaire de Toulouse, donc qui est un peu à l'origine de cette rencontre, puisque Stella qui représente, et puis Gilles qui va bientôt arriver, qui va poser normalement des questions à Victor s'il est là, avait prévu de l'inviter. Bon, ça n'a pas pu se faire au mois d'avril, mais ça se fait maintenant, au mois de mars même, je crois, on avait envisagé ça. Donc, merci Victor de venir de Lyon nous présenter ton travail autour du sabotage. Une histoire du sabotage donc, qui est prévue en deux tomes. Le premier est paru il y a quelques mois aux éditions Libre. Enfin, le deuxième sera aussi aux éditions Libre, évidemment. Et puis, vous avez aussi des textes d'Émile Pouget qui sont rassemblés par Victor aux mêmes éditions Libre. Voilà. La rencontre est enregistrée, voilà, et diffusée bientôt sur notre site internet. On va créer des archives audio. Je me répète pour ceux qui viennent à toutes nos rencontres, mais voilà, vous pourrez bientôt retrouver les archives de 4 ans de rencontres à Terra Nova. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Donc Victor va présenter son livre. Donc, normalement, Gilles arrivera pour lui poser quelques questions, puis ensuite on échangera toutes et tous ensemble. Merci.
Ben merci pour ton invitation, Gilles, et merci à vous d'être là aussi également. Oui, peut-être un petit mot sur l'anthologie d'Émile Pouget dont tu as parlé, qui est donc un recueil de textes, d'une espèce d'anthologie qui compile tous les articles d'Émile Pouget avant la sortie de son livre qui paraît en 1910, qui a pour titre Le Sabotage. Et donc c'est une espèce de compilation de tous les articles préparatoires qui lui permettent de conceptualiser le terme de sabotage en 1900, d'aboutir à sa brochure de 1910. Et ça m'a paru intéressant de ressortir ces articles pour montrer l'évolution de Pouget, pour montrer comment d'une année à l'autre, de 96 à 97, 1896-1897 par exemple, il change certains mots, il ajoute des expressions pour affiner sa conception du sabotage. Et jusqu'à présent, c'est des textes qui n'avaient pas été publiés. En fait, ce qui est publié, c'est par exemple à la maison d'édition Nada, Le Sabotage d'Émile Pouget, c'est son texte de 1910, mais ses articles préparatoires n'ont jamais été publiés, sauf à l'époque dans son journal qui s'appelait Le Père Pénard et la Sociale. Par ailleurs, j'ai réussi à trouver, alors j'étais assez content parce que ce sont des comptes rendus du procès auquel à l'issue duquel il a été condamné, où il déclare qu'il est anarchiste. Et en fait, j'ai retrouvé toute sa déclaration d'Émile Pouget qui dit « Je suis anarchiste devant la cour ». Voilà, ça c'était pour l'autre livre qui en fait constitue la toile de fond de tout le travail du premier tome. Ce sont tous les articles qui m'ont permis d'écrire le premier tome et de situer les grands moments du sabotage au cours de l'histoire. Donc la première chose à dire, c'est que le sabotage, il est difficile d'en faire une histoire pour la simple et bonne raison que la pratique est, relève d'une... C'est une pratique discrète, latente, un peu larvée, sournoise, qui ne passe pas par des grands éclats de lutte. Et pour cette raison, le sabotage, les actes de sabotage sont toujours anonymes, cachés, discrets et difficiles d'en trouver des traces dans les archives. Alors, pour cette raison, on n'a pas d'histoire globale du sabotage. En tout cas, il n'en existait pas jusqu'alors, à l'exception d'un travail de Sébastien Albertelli, Histoire du sabotage, mais qui présente le défaut, enfin, c'est pas un défaut, mais disons que c'est une histoire parcellaire du sabotage, dans la mesure où il se concentre exclusivement sur les actes de sabotage durant la Seconde Guerre mondiale. Et en cela, il ne rend pas justice aux origines anarchistes de la pratique et il n'envisage pas non plus son actualité aujourd'hui dans les luttes notamment écologistes. C'est la raison pour laquelle il m'a paru nécessaire de faire la généalogie du sabotage, de montrer d'où il vient, quelles sont les pratiques antérieures qui pourraient s'apparenter à du sabotage, à des formes de proto-sabotage, et aussi de montrer comment il est réinvesti aujourd'hui dans d'autres milieux comme sur le terrain de l'écologie radicale. Car en fait, on voit un profond décalage entre son développement, le développement du sabotage par les syndicalistes révolutionnaires au tournant du siècle, à la fin du 19e et au début du 20e, et sa réactualisation aujourd'hui dans les luttes contemporaines. Ce décalage entre le sabotage conceptualisé par les syndicalistes révolutionnaires et sa réactualisation aujourd'hui dans les luttes de tendance écologiste justifie le travail en deux tomes. Le travail en deux tomes, la séparation entre ce premier tome qui couvre les dates de 1893 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, et le second tome qui couvre une période beaucoup plus large, de 1920 à aujourd'hui, finalement. Le premier tome rend compte de la formulation de la tactique du sabotage comme résistance au travail, telle que c'est pensé par les révolutionnaires, les syndicalistes, c'est vraiment la résistance au travail. Le deuxième volet du livre, c'est plutôt des résistances aux techniques, avec la mécanisation, l'automatisation du travail. Il y a également donc comme on le comprend, le premier tome est beaucoup plus aux sources du sabotage et le deuxième tome sera beaucoup plus centré sur les mutations de la pratique au contact de nouveaux terrains de lutte et de mutations tout simplement de la société du travail face à au changement du capitalisme. Alors parfois, au lieu de parler de mutation, il vaut mieux peut-être parler de trahison, puisque le sabotage a été massivement instrumentalisé et récupéré par les États en période de guerre, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, par les services secrets. C'est pour ça que le sabotage très rapidement est associé à l'espion, à la pratique de l'espionnage. Par exemple, le film de Alfred Hitchcock qui est traduit par sabotage, alors que le titre en anglais c'est espionnage. Il est par ailleurs, donc il est récupéré, il y a une trahison parce qu'il est récupéré par les États, instrumentalisé par les États comme une nouvelle pratique de guerre. Et il est aussi récupéré par les fascistes dès 1930, notamment le groupuscule d'extrême droite La Cagoule, qui revendique le terme de sabotage et qui se le réapproprie. Et pour cette raison, il perd sa spécificité typiquement révolutionnaire. Dans le deuxième, donc là, je vais balayer très rapidement le deuxième tome pour ensuite comprendre, pour justifier le retour au premier. Deuxième tome qui n'est pas encore paru. C'est pour vous donner envie. Voilà. Donc, le deuxième tome qui se concentre sur les mutations, j'ai dû repérer plusieurs critères, plusieurs moments charnières qui sont comme des ruptures historiques qui font qu'on assiste à un tournant du sabotage avec un changement. Alors, le premier moment, c'est l'abandon tout d'abord, en 1920, du sabotage par les syndicalistes révolutionnaires et en fait par la CGT elle-même qui n'est plus, qui refuse le terme de révolutionnaire. C'est 1920, il y a une scission entre la CGTU, la CGT unitaire, qui est complètement absorbée par le Parti communiste naissant alors, puisqu'en 1917, il y a eu l'apparition de la révolution bolchevique. 1920, le Parti communiste essaime au niveau international, chapeaute complètement la CGT. La CGT, majoritairement, est représentée par les communistes en 1920. Les communistes qui refusent la pratique du sabotage. Et le sabotage, en fait, revient aux syndicalistes révolutionnaires, donc à la CGT-SR. Donc on a d'un côté la CGTU majoritaire qui est chapeautée par les communistes et ensuite la CGTSR, syndicaliste révolutionnaire, qui est minoritaire et principalement représentée à Paris par le syndicat des bâtiments de la Seine. Voilà, les syndicats des bâtiments de la Seine qui restent encore révolutionnaires. En 1937, on a des actes de sabotage sur l'exposition internationale. Qui d'ailleurs est retardé d'un an et qui sont des sabotages pratiqués à l'initiative également de la Fédération du bâtiment de la Seine. Des bâtiments de la Seine. Donc voilà, ce premier moment, c'est l'abandon par la CGT de la pratique du sabotage. Le deuxième moment, c'est le moment où le sabotage n'est plus lié au monde du travail, mais est lié à une pratique guerrière. Alors, c'est une pratique guerrière qui bouleverse de fond en comble le droit international de guerre, puisqu'on passe d'une guerre absolue, qui est une guerre finalement symétrique, avec deux parties opposées front à front, une guerre avec une égalité des forces et un contact direct et absolu, avec un contact meurtrier et sanglant des deux parties, à une guerre totale qui est finalement le synonyme de guerre civile. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, bon, c'est une guerre de tranchées, de haute intensité, symétrique, et ensuite la Seconde Guerre mondiale est une guerre plutôt totale, c'est-à-dire qui implique des civils et qui n'est plus symétrique, mais dit asymétrique, et qui rend possible les coups dans le dos, l'apparition d'un nouveau type de militaires, qui sont des militaires non professionnels, qui sont en fait les groupes armés, les partisans armés, qui passent à l'attaque contre des civils, comme ils passent à l'attaque contre des soldats. Et à l'évidence, l'apparition de cette guerre totale, qui est théorisée d'ailleurs par des fascistes comme le général Ludendorff, un général nazi, qui a écrit d'ailleurs le livre « La guerre totale », qui a pour titre « La guerre totale », explique que voilà, la Première Guerre mondiale était une guerre de militaires, maintenant il va falloir faire la guerre entre civils. Donc c'est une guerre civile avec une implosion complètement de toutes les frontières, toutes les démarcations entre amis et ennemis, uniformes civils, enfin militaires professionnels et militaires et civils innocents. Et donc, on s'en prend à des innocents, notamment les homosexuels, au nom de l'idéologie fasciste, en tout cas national-socialiste, les juifs, et puis tous ces gens qui étaient alors considérés comme des parias. Donc, ça favorise une nouvelle technique de combat qui favorise le sabotage. Et donc l'apparition de partisans irréguliers, c'est-à-dire qu'on n'a plus une guerre régulière et symétrique, on a une guerre asymétrique irrégulière. Le troisième moment du sabotage, qui fait qu'il n'est plus seulement militarisé, mais s'attaque uniquement aux dispositifs techniques, c'est la mutation de la société du travail au tournant des années 60-70, avec l'automatisation de la sphère du procès de production, qui fait sortir l'ouvrier de l'usine et l'expose à d'autres types de domination, et en fait Et en sortant l'ouvrier du monde du travail, puisque une fois que l'usine est automatisée, ça élargit la sphère du domaine politique, de la notion de politique, à toutes les dimensions de la vie quotidienne. Et c'est à ce moment-là qu'on assiste à une explosion des luttes, à un éparpillement des luttes entre le front écologiste, le front féministe, le front colonialiste, anticolonialiste du moins. Et c'est le moment où le sabotage, finalement, n'est plus une spécificité du monde du travail, mais s'attaque à d'autres, mais est exporté vers d'autres terrains de lutte, comme les luttes féministes, où par exemple on a des attaques contre des magasins qui promeuvent la pornographie, par exemple dans les milieux féministes. Donc ça, ce sont les trois moments qui font que le sabotage change de forme, change de visage. Et je dirais que le moment encore plus crucial, c'est le moment où le sabotage est utilisé dans les luttes écologistes et le terme change complètement et on ne parle plus de sabotage en référence au monde ouvrier, mais on parle d'écotage. Donc le terme nous vient des États-Unis. Le terme apparaît après les années 70. Donc les années 70, c'est le moment des Journées de la Terre, où c'est vraiment la date originaire, la matrice de la lutte écologiste. Et c'est à ce moment-là que le terme d'écotage apparaît, plus précisément dans un livre qui sort en 1972 de Sam Love, où il commence en épigraphe. Le terme, nous allons ajouter un nouveau terme au dictionnaire, c'est le terme écotage, fondé sur l'étymologie, donc écologie, et sabotage, qui est une importation, qui est d'importation française. Donc voilà, c'est vraiment 72. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est quelle est la forme que prend ce livre. Ce livre se présente comme un concours. C'est-à-dire, Sam Love lance dans les journaux écologistes, les fanzines, un appel à concours sur donnez-nous des idées de sabotage. Une espèce de boîte à outils, un catalogue de la dissidence, pour dire faites-nous remonter, selon vos métiers, selon vos professions, quels sont les petites astuces que vous utilisez au quotidien pour freiner la machine capitaliste. Et il y a une grande remontée d'astuces qui sont ensuite compilées dans ce livre Écotage en 72. Voilà pour la mutation du sabotage et sa réinterprétation dans les milieux écologistes tels qu'on les voit aujourd'hui dans le cadre des soulèvements de la terre ou même à Toulouse, il y en a eu beaucoup dans les années 80 avec le groupe Clodo par exemple, contre l'informatisation de la société. Donc tout ça n'est pas dans le premier livre. Mais ça montre qu'il y a une espèce de plasticité du terme. On ne sait pas finalement si ça ne peut pas être utilisé par les fascistes. Est-ce qu'il y a vraiment une origine syndicaliste? Comment ça se fait que ça puisse être utilisé dans le cadre de l'écologie? Donc cette plasticité, cette labilité du terme finalement, de la définition, implique de revenir à ses origines révolutionnaires telles qu'il a été revendiqué par Émile Pouget pour la première fois dans le journal La Sociale en 1896. Donc le terme apparaît vraiment en 1896 dans La Sociale, un journal tenu par Pouget, et ensuite adopté officiellement lors du 3e congrès de Toulouse par la CGT, donc à Toulouse finalement, par la CGT en 1897. Donc un an après, Pouget arrive à créer une telle émulation autour de cette nouvelle pratique que la CGT l'adopte. Sachant que la CGT est apparue en 1895, donc c'est vraiment deux ans après que le sabotage... Tout ça pour dire que le sabotage est constitutif du syndicalisme. Ce qu'on oublie aujourd'hui avec l'idée qu'on se fait du syndicalisme qui est complètement absorbé par le dialogue social et ses volontés réformistes. J'ai voulu essayer, dans le premier tome, de dégager une espèce de préhistoire du sabotage à travers différents types de résistances et essayer de penser et essayer de penser le sabotage avant le terme, avant le mot. Le sabotage avant l'apparition de la société industrielle, avant la dépossession par l'outil de travail, avant la dépossession de l'outil de travail par le capitalisme. Et donc je me suis dit, comment pourrait-on penser le sabotage avant, dans des sociétés où finalement les ouvriers, les travailleurs possédaient eux-mêmes leur outil de travail. Ce qui caractérise le passage à la société industrielle, c'est la dépossession par l'accaparement du capital de l'outil de travail et l'apparition des grandes manufactures. Donc j'ai essayé de penser une préhistoire et des formes de proto-sabotage qui ne s'opposaient plus au monde du travail avec un rapport d'exploitation, puisqu'il n'y avait pas un rapport d'exploitation aussi net et franc qu'avec l'apparition de la société industrielle, mais dans le cadre de non plus dans le monde du travail, mais contre l'apparition de dispositifs techniques d'oppression. C'est-à-dire que petit à petit, au cours de l'histoire, des dispositifs techniques d'oppression sont arrivées qui ont commencé peu à peu à déposséder l'ouvrier et le travailleur de son travail. J'identifie trois inventions techniques au cours de l'histoire qui ont bouleversé de fond en comble le travail et qui ont préfiguré en quelque sorte l'exploitation au travail. Je m'aide de trois auteurs, donc James Scott, Louis Mumford et Thompson, son petit livre à la découverte, Temps, virgule, discipline du travail. À travers ces trois auteurs, j'identifie donc trois inventions techniques et à chaque fois je repère au cours de l'histoire des contestations qui se traduisent sous des formes qui prennent la forme de sabotage, disons de proto-sabotage, puisque le terme n'existait pas. La première invention, alors je remonte très loin, c'est l'invention de l'écriture. L'invention de l'écriture qui est finalement contemporaine. Donc l'invention de l'écriture comme dispositif technique d'oppression. Pourquoi d'oppression ? Parce qu'avec l'apparition de l'écriture, on observe que on assiste du moins à l'émergence des premières dynasties, des premiers cités-états. Pourquoi ? Parce que grâce à l'écriture, on commence à pouvoir identifier les gens, les fichiers, cataloguer, repérer, poser finalement un contrôle du territoire et de la population grâce à un dispositif scriptural. Et ça apparaît au 4e millénaire, à l'époque d'Uruk III, avant notre ère, donc 40 siècles avant notre ère. Et en fait, on se rend compte que l'écriture apparaît comme un dispositif économique pour comptabiliser les dettes. C'est-à-dire que quand on contractait une dette avec quelqu'un, on l'inscrivait dans une espèce d'enveloppe bulle. En fait, le terme enveloppe bulle, et je le reprends des assyriologues, notamment Jean-Jacques Klaschner, qui explique que les enveloppes bulles étaient des petites enveloppes sur lesquelles on inscrivait le nombre, par exemple, de brebis qu'on louait. Et donc, à ce moment-là, pour faire table rase d'une dette, beaucoup de gens brisaient les enveloppes bulles. Donc il y avait, même pour le système d'imposition, pour déjouer l'imposition, on brisait les tablettes. Et donc c'est finalement une manière de faire table rase, tout simplement, de la dépendance qu'on contractait auprès d'un propriétaire. La résistance prend la forme de falsification des tablettes également. Et au cours de l'histoire, ça continue, non plus sous les formes de tablettes, mais quand le papier arrive, à chaque moment, à chaque période révolutionnaire, les centres d'archives, les centres d'impôts, les centres administratifs, c'est le papier à chaque fois, le papier qui permet le fichage des gens d'être, qui est à chaque fois brûlé. On le voit par exemple, la Révolution française, il y a énormément sur la place des Vosges, il y a un auto-da-fé de papier administratif. Il y a par exemple en Suisse le saccage du château de Necker avec le mouvement des bourlas papés, donc les brûleurs de papier en 1802. Et donc après, je pourrais vous trouver une citation de Lewis Mumford, mais là, ça va prendre peut-être un peu de temps, le temps que je trouve. Mais alors voilà, par exemple, Proudhon, le penseur de l'anarchisme, explique par être gouverné, c'est être à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. Et tout ça passe par un support matériel qui est, et un dispositif technique qui est l'écriture. Claude Lévi-Strauss écrit « Le seul phénomène qui semble toujours et partout lié à l'apparition de l'écriture, non pas seulement dans la Méditerranée orientale, mais dans la Chine proto-historique, et même dans ces régions de l'Amérique où des ébauches d'écriture étaient apparues avant la conquête, c'est la constitution de sociétés hiérarchisées, de sociétés qui se trouvent composées de maîtres et d'esclaves, de sociétés utilisant une certaine partie de leur population pour travailler au profit de l'autre partie. Et quand nous regardons quels ont été les premiers usages de l'écriture, il semble bien que ces usages aient été d'abord ceux du pouvoir. Inventaire, catalogue, recensement, loi et mandement. Dans tous les cas, qu'il s'agisse du contrôle des biens matériels ou de celui des êtres humains, manifestation de puissance de certains hommes sur d'autres hommes, et sur des richesses. Puis après, il a une petite boutade en disant que finalement, pourquoi est-ce qu'on apprend à lire aux enfants ? Bah, tout simplement pour qu'on puisse ensuite leur dire « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc voilà pour l'écriture, qui est le premier dispositif d'oppression contre lequel les agitations s'opposent. Le deuxième dispositif technique d'oppression, c'est au tournant du Xe siècle, donc à l'an 1000, avec l'apparition des fortifications. C'est l'apparition de la seigneurie, tout simplement, ce qu'on appelle la tragédie des communs, alors qu'avant on avait des droits de glanage, des droits coutumiers, avec la possibilité dans des assemblées délibératives de décider de la distribution et de la répartition des ressources. Petit à petit, on assiste à une espèce d'encellulement du territoire, de parcellarisation des espaces avec un quadrillage militarisé qui fait que les gens commencent à appartenir à un seigneur et donc on passe des paysans-villes au servage. Et les contestations prennent la forme tout simplement de destruction, de barrières, de tous les dispositifs qui attestent d'une frontière finalement. Les douves, tout ce qui atteste de forêt, on a des barricades qui sont détruites. Voilà. Ensuite, la troisième technique d'oppression, c'est l'apparition de l'horloge mécanique. Alors là, c'est Thomson, avec temps, discipline du travail. Pourquoi ? Parce que quand l'horloge mécanique apparaît au XIIIe siècle, on a un changement dans les mentalités, dans les mœurs, du rapport au temps. Alors qu'à l'époque, on avait un rapport au temps qui était un rapport qualitatif. C'est-à-dire que ceux qui mesuraient le temps, enfin, du coup, il n'était pas mesuré, il n'était pas quantifié, ceux qui mesuraient le temps, c'était la diversité des activités elles-mêmes. Donc, par exemple, on parlait du temps de cuire un œuf. C'était un étalon. Le temps de cuire un œuf était un étalon pour penser le temps. Le temps de chanter un Ave Maria. Finalement, c'était la diversité des activités elles-mêmes qui étaient les étalons du temps. Et puis, petit à petit, avec l'apparition de l'horloge mécanique, le temps s'est homogénéisé. Il est devenu non plus qualitatif, mais quantitatif. On a commencé à le mesurer. Qui dit mesure dit rationalisation. Qui dit rationalisation dit optimisation. Qui dit optimisation dit discipline des activités. Et donc, à ce moment-là, ben, le temps n'est plus le temps d'un Ave Maria, mais un temps à économiser. Avec l'horloge mécanique, le temps devient une... il y a une économie du temps qui apparaît. Et très souvent, on a des destructions d'horloges. Par exemple, en 1848, lors des émeutes à Paris, les révolutionnaires tiraient à balles réelles dans les horloges pour court-circuiter, pour montrer finalement que le temps, ils pouvaient aussi se le réapproprier. Puis on a des actes de sabotage beaucoup plus récents dans les usines, dans les années 60-70, où finalement l'horloge, certains ouvriers ouvrières les faisaient avancer pour pouvoir partir plus tôt. Pour pouvoir partir plus tôt du travail. Donc voilà les trois formes de proto-sabotage. Ensuite, Émile Pouget, on arrive à la révolution industrielle. Émile Pouget, donc, c'est vraiment lui qui invente le terme, même si le mot inventé, je nuance dans le livre, est-ce qu'il l'invente, est-ce qu'en fait... Il prend pas plutôt. En réalité, il prend son geste inventif consiste à plutôt prendre un mot du patois, de l'argot parisien, et de l'utiliser comme la traduction d'une pratique écossaise qui s'appelait le gokani. Et donc, la pratique existait avant lui. Elle se trouvait en Écosse. Elle s'appelait le gokani ou kakani si on prend le patois gaélique. Donc, la pratique existait. Et le terme existait aussi avant lui dans l'argot français. Depuis le XIIIe siècle, on parlait du sabot. Et son geste, en fait, inventif, consiste à traduire le gokani par le sabotage. Pourquoi sabotage ? Eh bien, sur le modèle du boycottage, le boycott étant aussi d'extraction anglaise, puisque c'est lié à M. Boycott, qui était donc un notable qui maltraitait ses ouvriers, en tout cas, était très... Bon, il n'était pas très honnête avec eux. Et les ouvriers ont décidé de laisser pourrir les cultures en guise de protestation. Le terme est devenu boycottage. Donc on refuse de collaborer à la marchandisation d'une culture. En l'occurrence, c'était des cultures céréalières. Bon, et le sabotage est construit sur le terme de boycott. Voilà, je continue. Il n'y a pas de questions particulières sur Pouget. Donc, Pouget est né non loin de Rodez en 1860, donc il a 10 ans au moment de la Commune de Paris, de l'éclatement de la Commune. Bien sûr, je ne parle pas de la Commune de Paris, je parle de la Commune de Lyon, qui est la première commune qui éclate en 1870 par la déclaration de Bakounine devant l'hôtel de ville Place des Terreaux, où l'abolition de l'État est déclarée. Donc en 1870 et ensuite en 1871, c'est la Commune de Paris. Il y a bien sûr d'autres communes, Bordeaux, Perpignan, Nîmes, Toulouse, Saint-Étienne, Marseille, Narbonne, où d'ailleurs une des figures principales, un des agitateurs les plus connus est Émile Digeon, avec qui sympathise Émile Pouget. Finalement, Émile Digeon, c'est un petit peu le père spirituel, le père politique d'Émile Pouget, un anarchiste de la première heure, qu'il l'introduit à Paris dès 1883, 80 même, qu'il l'introduit à Paris parce que bon, Pouget a perdu son père, sa mère s'est remariée, son beau-père est mort très tôt, donc du coup, il devait subvenir aux besoins de sa mère et l'aider. Donc il était dans la misère, donc il est parti sur la capitale pour essayer de trouver un job où il travaillait un peu plus de 80 heures par semaine, il dormait sur son lieu de travail, mangeait de la nourriture avariée. C'était la misère pour lui. Et Émile Pouget, qui venait de Narbonne, lui l'a introduit auprès de cercles anarchistes. Donc il a connu Louise Michel, il a connu Joseph Tortelier, qui est le précurseur de la notion de grève générale. Et c'est à Paris que voilà, il participe aux premières agitations anarchistes. En 83, il participe à une manifestation dite des crèves la faim, des on dirait aujourd'hui des chandans. Et pour cette manifestation, Louise Michel, ils sont pris dans une incartade. Louise Michel essaye de le défendre. Elle met le drapeau à travers, ça lui permet de s'échapper. Bon, il le retrouve, ils font une perquisition chez lui, il trouve de la dynamite. Donc, finalement, il part, il subit une condamnation de 8 ans de prison, de 83, et il sort au bout de 3 ans, en 86, pour bonne conduite. Et de 86, il est toujours à Paris, de 86 à 91, il participe à la propagande par le fait des anarchistes. Donc, il va voler, par exemple, c'est le vol de Choisy-sous-Étiol, à côté de Paris. Il va voler dans les carrières des explosifs pour en fait faire sauter les immeubles de certains juges qui condamnaient à mort ou qui condamnaient très sévèrement des militants anarchistes qui, en fait, avaient... pour avoir pillé une boulangerie, parce que les gens crevaient la faim, on était condamné à 8 ans de prison. Bon, c'était le cas de Bouger. Donc, il participe à cette propagande par le fait. Et en fait, très rapidement, la propagande par le fait est jugulée, elle est matée vraiment dans l'œuf, avec l'apparition des lois Serré-Lérate. On a Ravachol, Cagério, Charles Gallo, Auguste Vaillant, Émile Henry, qui sont tous ces gens qui font, en guise de revanche, de vengeance populaire, qui font sauter les immeubles des juges qui condamnent les anarchistes à des peines de mort, ou même un commissariat, c'est le cas de la commissariat de la rue des Bons-Enfants, qui a mis en musique Boris Vian d'ailleurs, la Java de la rue des Bons-Enfants, bon, bref. Donc, la propagande par le fait est jugulée par les lois scélérates. Les lois scélérates, c'est une batterie de lois qui font de l'anarchisme, de l'opinion anarchisme, un délit d'opinion. Donc, c'est en fait une atteinte profonde à la liberté de la presse, si bien que Émile Pouget est obligé de s'exiler à Londres, en Angleterre, et il réfléchit. Il se dit, finalement, la propagande par le fait, c'est souvent le fait de ce qu'on dirait aujourd'hui des loups solitaires, en tout cas d'aventureux en dehors de la société qui manquent le monde du travail, qui, en fait, n'arrive pas à convertir la masse ouvrière, enfin, pas convertir, mais en tout cas, qui n'arrive pas à rallier les ouvriers à l'émancipation sociale. Ce sont des gens, finalement, qui sont en dehors du monde du travail. Et lui, il a l'idée de se dire, mais finalement, il faudrait trouver une méthode qui soit... il faudrait trouver comment importer la lutte au cœur de l'activité productive. Donc, il faudrait trouver une méthode qui soit suffisamment offensive pour remporter le suffrage des anarchistes, parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer les anarchistes en disant « bon, bah, votre méthode, elle est inefficace, on ne veut plus de vous, votre idéal est à balayer ». Non, mais il faut que cette tactique porte aussi une dimension suffisamment collective pour être diffusée parmi les ouvriers. C'est-à-dire que la propagande par le fait, elle est souvent, c'est souvent de l'anarchisme individualiste. C'est-à-dire, elle ne porte pas de dimension collective. Donc lui, il essaye de trouver une espèce d'entre-deux, une tactique d'entre-deux. Et c'est en Angleterre où il a la connaissance d'une pratique qui est mise en place par les dockers de Glasgow. Qu'est-ce qu'ils font pour que leurs revendications aboutissent? Oui, donc il y a je reviens sur un point, c'est qu'il y a la propagande par le fait qui est souvent en dehors du monde du travail et donc pour cette raison elle est inefficace, mais il y a aussi la grève auquel parfois ils participent, et à l'époque la grève a été autorisée dès 1864, mais elle a été autorisée comme un fait coupable finalement. Elle était plutôt tolérée qu'autorisée. Et très rapidement, elle était rendue inefficace par l'armée qui n'hésitait pas, comme à Clichy en 1891, comme à Fourmies, ça se terminait dans le sang. Donc, pareil, la grève ne fonctionnait pas. Puis, il y avait aussi les syndicats, ce qu'on appelait les jeunes, donc les syndicats pro-patronaux, et puis les renards. Je fais cette petite distinction terminologique entre les jeunes, qui sont donc les syndicalistes pro-patrons, et les renards, à l'époque, c'était les briseurs de grève, c'est-à-dire des gens qui étaient dans la plus extrême pauvreté, que le patronat embauchait pour pouvoir briser la grève et donc rendre la grève inefficace parce que la production continuait. Donc que ce soit les éclats de violence de la propagande par le fait, du fait d'anarchistes individualistes ou la grève, les deux étaient des techniques inefficaces. Donc il s'est dit, il faut trouver un entre-deux. Il va à Londres, il est exilé et en 1894. Et donc à Glasgow, les dockers, pour que leurs revendications aboutissent, font une grève. Très rapidement, la grève est brisée par des briseurs de grève qui viennent un peu plus du nord. Mais les briseurs, donc les renards, les briseurs de grève, font mal le travail. Pourquoi ? Parce que ce sont des ouvriers incompétents qui n'ont pas été formés au métier particulier des dockers. Donc très souvent, ils font tomber les bagages, les fardeaux, tout ça. Ils trébuchent, ils maltraitent la besogne, etc. Donc, Pouget se dit, bah là, on a là quelque chose d'intéressant, c'est finalement de ne pas faire grève, donc de rester au travail, mais de faire comme si on était un mauvais travailleur. Et le sabotage à l'origine tel que pensé par Pouget prend pour définition à mauvaise paye, mauvais travail. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous mettre en grève, nous allons faire grève au travail. On allonge le temps de pause, on trouve plein de petites astuces qui permettent de ne pas faire briller la grève, mais d'importer la lutte au travail en ralentissant la cadence, en baissant la qualité alors ça, de la production. Alors ça peut prendre plusieurs formes et j'esquisse dans le bouquin une espèce de typologie des différentes formes de sabotage, des différentes formes que peuvent prendre le sabotage, c'est-à-dire que ça peut jouer à la fois sur la quantité, mais aussi sur la qualité. Donc, si c'est la quantité, c'est travailler moins. Si c'est la qualité, c'est travailler mal. Ensuite, ça peut s'attaquer à la production, ça peut s'attaquer à la marchandise, ça peut s'attaquer à notre propre activité, ça peut s'attaquer à l'activité de la machine. Et là, à partir du moment où on dit le sabotage s'attaque à l'activité de la machine, c'est-à-dire on ne va pas ralentir notre propre travail, on va ralentir le travail de la machine. Donc, ce que Marx appelle le travail mort, le capital réinvesti sous forme de machine. Et donc, là, si on s'attaque au travail mort, si on s'attaque à la machine, eh ben, on a déjà une première esquisse du sabotage comme tactique antitechnologique. C'est plus seulement contre mon propre travail, en disant « je vais paresser au travail », c'est que je vais rendre la machine paresseuse. Et en rendant la machine paresseuse, je la brise. Enfin, en tout cas, je la détruis. Et donc là, on a déjà l'idée d'un sabotage antitechnologique. Donc, au total, le sabotage répond à trois critères. Si on veut essayer d'aboutir à une définition idéale du sabotage. Le premier critère, c'est l'idée d'un jeu avec le travail. On module l'activité, on ne travaille pas à n'importe quel prix. On se rend compte que si on veut parfois engager un rapport de force, il faut qu'on acquiert des compétences, que ces compétences deviennent irremplaçables pour pouvoir ensuite jouer d'une incompétence simulée pour pouvoir peser dans la balance du rapport de force. Donc ça, c'est l'idée d'un jeu avec le travail. On module notre propre activité. Ensuite, le deuxième critère de définition, c'est de dire le travail, c'est aussi le travail de la machine. Donc cette fois, on ne va plus s'attaquer à notre propre travail, on va s'attaquer au travail de la machine. Comme je disais tout à l'heure, c'est la dimension antitechnologique. Donc pourquoi ? Parce qu'une fois que la machine est en panne, on peut faire grève. Parce que les renards, les briseurs de grève qui vont venir, ils ne vont pas pouvoir utiliser la machine qui est en panne. Elle est en panne. Donc, la question, c'est est-ce que la grève est un sabotage ou est-ce que le sabotage est un moyen de faire la grève ? La réponse de Pouget, c'est de dire, en fait, le sabotage est un moyen de rendre indisponible la production pour pouvoir dégager du temps d'autonomie et de liberté pour faire grève et faire aboutir nos revendications en empêchant les briseurs de grève. Et la troisième définition, le troisième critère du sabotage est lié à la grève générale. Et là, c'est l'idée de dire, oui, mais une fois qu'on va être dans la rue, que la machine est en panne, il va y avoir l'armée. qui est prête à être réquisitionnée à n'importe quel... Enfin, je veux dire, l'État est prêt à tout, même à se mettre lui-même dans l'illégalité. Donc, puisqu'il est au-dessus de tout. Donc, la troisième définition du sabotage, c'est de dire, en fait, le sabotage, il doit s'attaquer précisément, non pas seulement à la sphère productive, mais au militarisme, c'est-à-dire à l'institution militaire. Et c'est finalement le sabotage qui apparaît dès 1913-14, à la veille de la Première Guerre mondiale, où des anarchistes élaborent des plans de sabotage de la mobilisation générale des Français. Et donc il y a des sabotages. L'idée, c'est de saboter les ravitaillements, les dispositifs de commandement des télégraphes, les dispositifs de transport des contingents militaires, etc. Et donc, ça, c'est l'idée de grève générale. La grève générale, elle est inséparable d'une espèce de fraternisation avec l'armée. Si on ne se met pas, si de toute manière, on ne neutralise pas l'armée et les forces répressives, on ne pourra jamais faire aboutir la révolution, telle que Pouget l'envisage. Voilà. Ces trois critères correspondent à trois moments historiques de sabotage. Le premier, c'est le sabotage contre les bureaux de placement. Donc, le premier critère, c'est jouer avec les règles du travail. Qu'est-ce que les bureaux de placement ? Les bureaux de placement, à l'époque, ce sont les ancêtres des agences d'intérim. Les agences d'intérim, bon, on y va pour trouver un boulot. En fait, on fait du travail une bourse. On ouvre l'emploi à la marchandisation. Et à l'époque, c'était plus pervers que ça, parce que pour pouvoir s'inscrire au bureau de placement, donc aux ancêtres des agences d'intérim, il fallait payer. Donc souvent, les gens cherchaient du travail pour avoir de l'argent. Mais pour trouver du travail, il leur fallait de l'argent. Donc en gros, c'est comme si aujourd'hui, toutes les agences d'intérim étaient payantes. Pour trouver de l'argent, et ben, finalement, il fallait trouver... Enfin, c'était absurde. Et c'est en 1920, avec l'apparition de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qu'est apparue la gratuité de tous les bureaux de placement et des agences d'intérim. Et donc, ces bureaux de placement ont été sabotés, et notamment par l'apparition des bourses du travail. C'est l'origine du terme des bourses du travail. C'est finalement les syndicalistes qui se sont dit, on va trouver un autre mode de gestion de l'embauche, mais gratuite. On va envoyer les gens qui cherchent du travail auprès de coopératives, notamment la Verrerie ouvrière d'Albi, qui était une coopérative autogérée. Et voilà, c'était l'idée d'un placement ouvrier. Et gratuit, évidemment. Et avec les gens n'étaient pas fichés. Parce que dans les bureaux de placement, les gens étaient fichés avec des cartes de visite et bien sûr qui collaboraient étroitement avec la police. Donc il y avait un fichage qui passait par le monde du travail. Donc les bureaux de placement sont sabotés. Ça prend la forme de bris comme aujourd'hui des casseurs finalement. Toutes les agences d'intérim sont toutes saccagées. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui, j'ai remarqué, les agences d'intérim. Donc c'est vraiment à cette époque-là que le sabotage apparaît dans ce contexte de campagne contre les bureaux de placement, contre la marchandisation du travail. Et Pouget dit, finalement, comme une marchandise, on peut avoir une marchandise de bonne ou de moins bonne qualité, et on va la payer. Une marchandise de mauvaise qualité, on va la payer moins cher qu'une marchandise de bonne qualité. Mais il dit, vous êtes un travailleur, votre force de travail est achetée par... vous prostituez, vous vendez votre force de travail à l'employeur, le travail est devenu une marchandise, eh bien on va faire pareil pour lutter. C'est-à-dire on va prendre le contre-pied du capitalisme et on va dire un mauvais travail, mauvaise paye. Donc quand on est mal payé, on travaille mal. Et si on veut être mieux payé, eh bien on va travailler mieux. La deuxième période du sabotage qui s'attaque à l'outil de travail, c'est 1909-1910, c'est la grève massive et générale des PTT, qui commence dans les PTT. Et donc, à l'époque, c'était des télégraphes. Tous les fils télégraphiques étaient coupés. Et ensuite, par une espèce de contamination, ce sont les cheminots. Parce qu'à l'époque, bah, encore aujourd'hui, il y avait du fret postal. Donc finalement, les postiers côtoyaient la corporation des cheminots. Et par un effet de contamination des luttes et de convergence, il y a eu les cheminots qui sont rentrés en grève. Et là, le sabotage a consisté non seulement à continuer à couper les lignes télégraphiques, mais également à couper les voies de communication de chemin de fer. Alors, finalement, c'est exactement ce qui... Ou de dérèglement, on coupait les panneaux de signalisation des chemins de fer, ce qui faisait que la circulation ferroviaire était complètement désorganisée. Et alors là, comme on a vu à Paris, enfin à côté de Paris, il y a eu un acte de sabotage au début du mois de mars, je crois, si je ne me trompe pas, où... février, je ne sais plus. En tout cas, vous avez suivi l'actualité, il y a eu un sabotage qui a paralysé toutes les gares là-bas, la gare de l'Est, pendant 4-5 jours, ça a été massif. Bon, il y a eu un sabotage. Ben, il faut bien se figurer qu'en 1911, des sabotages comme ça, il y en a 3000 en l'espace de 3 mois. Donc on est sur une autre échelle, sans aucun déraillement de train ou quoi, et pas de blessés. Parce que l'idée du sabotage aussi, je ne l'ai pas précisé, c'est que non seulement on s'attaque à la machine, mais comme au travail on s'attaque de manière, on joue avec les règles du travail, eh bien avec la machine c'est pareil. On ne va pas la détruire dans un grand éclat de violence, on va la mettre hors service, on va la soustraire au régime de la production de manière insidieuse, de manière à ce qu'elle puisse être redémarrée grâce aux compétences du travailleur. Donc c'est finalement une revalorisation des compétences du travailleur. Et donc en fait, c'est pas s'attaquer à la machine en la détruisant complètement, c'est s'attaquer à l'endroit sensible, au maillon faible, pour pouvoir trouver la petite astuce qui va la mettre en panne. Ça prenait par exemple chez les demoiselles du téléphone, en 1910, chez les demoiselles du téléphone, ça prenait la forme de ce qu'on appelait le masticage, et je ne pourrais pas vous dire en quoi ça consistait, parce que ça restait secret, et il y avait une petite astuce qui mettait complètement en panne tous les télégraphes, et j'avais beau appeler les techniciens, l'appareil ne fonctionnait pas, et ils n'arrivaient pas à trouver l'origine de la panne. Donc la définition finalement du sabotage comme action directe, c'est, donc en s'en prenant à la machine, ça serait une définition de dire un minimum d'action matérielle pour un maximum d'effet politique. Donc on fait un minimum, une frappe chirurgicale pour un maximum d'effet sur la production. Voilà, après je peux revenir un petit peu sur l'étymologie du sabot, parce que c'est un truc que j'aime bien, mais je sais pas, peut-être on va arrêter là, et si vous avez des questions. Ouais. Oui, souvent en fait, on a l'idée un petit peu dans l'imaginaire collectif du sabotage comme le sabot, la chaussure en bois, qui va dans les rouages de la machine bloquer tout l'arsenal, enfin tout le mécanisme. En réalité, c'est une déformation, cette image-là, c'est une déformation du sabotage français par les syndicalistes américains. Les syndicalistes américains, donc je ne parle pas très bien anglais, les World Workers International, les Woobly. Voilà. Les Woobly, ce sont les syndicalistes anglais en fait, qui ont fait une confusion, qui ont pris deux termes homonymes en français et qui ont gardé le terme de sabotage, qui s'adaptait particulièrement bien aux États-Unis où l'automatisation était très très avancée. Et donc ils se sont dit, ouais, le sabot en bois, qui en plus le sabot est une invention du 16e siècle typiquement européenne, c'est en Europe que le sabot a été inventé, la chaussure en bois, c'est en Europe que ça a été inventé. Et comme marque d'identité, les Américains se sont dit, oui, c'est le sabot en bois inventé par les Européens qui sont utilisés pour détraquer les machine et ça collait très bien. Bon, en réalité, Pouget, dans sa brochure de 1910, Le sabotage, dit très bien textuellement que le sabotage n'a rien à voir avec la chaussure en bois. Il le dit dans le troisième ou quatrième chapitre de son texte. Il dit que ça n'a rien à voir avec la chaussure en bois. Il dit, en fait, le sabot, c'est un homonyme. Il y a un autre terme qui est équivalent, le sabot. Et le sabot, c'est quoi ? C'est dans le terme, dans l'argot, populaire des faubourgs, des bas-fonds des faubourgs de Saint-Antoine à Paris, près des chantiers non loin des travailleurs. C'est un terme qui est utilisé tout simplement pour désigner le mauvais travailleur. Donc on disait « t'es un sabot » pour dire « tu travailles comme un sagouin finalement, tu travailles mal ». Et maintenant, si on s'y intéresse, et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Puget a utilisé ce terme de sabot pour dire le mauvais travailleur, il l'a utilisé pour traduire le gokani, qui, ah oui, j'ai pas précisé, le gokani, donc c'est la technique des écossais, des anglais, des dockers anglais, qui veut dire gokani, on traduit aussi par go slow, pour dire tout simplement vas-y mollo. Donc au travaille comme un incompétent, vas-y mollo. Donc si tu vas mollo, eh ben t'es un sabot, t'es un mauvais travailleur. Donc le geste de Puget, voilà, c'est traduire. Maintenant, ce qui est encore un peu plus intéressant, c'est si on s'intéresse à l'étymologie même du terme sabot pour qualifier le mauvais travailleur. D'où vient cette idée que le sabot est un mauvais travailleur? Ça vient d'une espèce de transfert linguistique d'usage en signification qui fait que au XIIIe siècle, on appelle le sabot désigne le jeu de la toupie pour enfants. On tire la toupie et elle se met à tourner. Et qu'est-ce que précisément qu'est-ce que fait la toupie? Eh bien, elle, quand on la regarde en activité, on a l'impression qu'elle est au repos, qu'elle est à l'arrêt, c'est-à-dire qu'elle est immobile, c'est-à-dire que pendant qu'elle est en activité, pendant qu'elle est tirée par les enfants, eh bien, d'un coup, par une espèce d'illusion optique, on a l'impression qu'elle est à l'arrêt. Et là, on a toute la substance du sabotage, parce que c'est l'idée que pendant qu'on travaille, en faisant semblant de travailler, eh bien, en réalité, on prend une pause. C'est-à-dire qu'on simule le travail en dissimulant le repos qu'on prend. Donc c'est un travail de simulation, c'est finalement un jeu d'illusionniste. C'est le simulation-dissimulation. Comment le sabot comme jeu de la toupie est venu à qualifier le mauvais travailleur? Eh bien, là je ne peux pas donner de réponse, c'est tout simplement ce sont les usages métaphoriques qui étaient utilisés par les poètes, notamment François Villon, dès le XVIe siècle, qui dit, dans la ballade de la grosse Margot, un de ses poèmes, il dit « il dort comme un sabot ». Pour dire « il dort comme une toupie », c'est-à-dire que la toupie... On a l'impression qu'elle est à l'arrêt alors qu'elle est en train d'être en activité. Et par un usage métaphorique, Villon en fait un dormeur, l'image du dormeur. Et le dormeur devient le mauvais travailleur, celui qui paraît au travail. Et c'est comme ça que s'est construit au cours du temps le sabot comme mauvais travailleur à partir de la toupie, redigérée par les poètes qui en ont fait une métaphore du dormeur et donc du mauvais travailleur. Ça, c'est une exploration, c'est une première exploration étymologique. Et puis, il y a une deuxième exploration étymologique. Prenons l'image de la toupie. La toupie, c'est certes un objet qui donne l'impression d'être à l'arrêt alors qu'elle est en plein mouvement perpétuel, mais c'est aussi une danse. C'est une danse, non pas de sujet, d'humain, mais c'est une danse d'objet. Et de ce point de vue, c'est pourquoi on appelait la toupie le sabot, et bien en référence au sabbat des sorcières, qui est donc la danse pratiquée par les sorcières, qui était considérée comme des hérétiques, des impies, très facilement pourchassées par les catholiques, l'institution dominante à l'époque. Et ces sorcières pratiquaient une danse offensive. Il y a toujours un rapport entre danse et arts martiaux. Hein. On le voit par exemple avec la capoeira et même dans d'autres contrées orientales où la danse est toujours conjuguée à une technique de défense, à un art du corps, un geste de mise en retrait et en même temps de mise en contact. C'est comme la toupie finalement, ce mouvement perpétuel. Bon. le Shabbat des sorcières, qui tapaient de leur sabot. Voilà. Et donc, on a cette étymologie-là qui fait que le travailleur, c'est aussi quelqu'un qui est comme une sorcière au travail, c'est-à-dire il va casser la domination économique en pratiquant des gestes qui sont exclus, prohibés de la rationalité économique. Et enfin, une troisième source étymologique, c'est le Shabbat dans la religion juive, hébraïque, ou qui désigne tout simplement le jour de repos. Et tout ça est lié, il y a une constellation. Et le jour de repos, comme la toupie qui se repose, alors que, enfin, qui donne l'impression qu'elle est à l'arrêt alors qu'elle est en pleine activité. Le jour de repos, qui est aussi le repos au travail. Le travail vasimolo, travailler doucement. Donc on a toute cette constellation étymologique, le Shabbat des sorcières, le Shabbat hébraïque, le Shabbat comme la toupie, et le sabotage finalement, qui tout ça se cristallise sous la forme du sabotage chez Émile Pouget comme tactique révolutionnaire. Et ce qui est intéressant aussi, j'ai un ami, j'avais pas encore lu Caliban et la sorcière de Federici, et j'ai un ami qui me disait, oui, page machin truc, et apparemment Federici dit que le Shabbat des sorcières, elle explique que Shabbat vient de jeu. C'est un jeu. Et du coup, je dis, ah, bah, ça colle bien avec le jeu de la toupie qui s'appelle le sabot. Donc, bon, il y a une constellation lexicographique dont il est difficile de faire ressortir toute la rationalité, parce que la langue, c'est aussi beaucoup d'usage, de déformation, de réappropriation par des classes populaires, l'argot étant une classe pensée justement, non pas pour être compris, mais pour ne pas être compris des classes supérieures. Il y a tout un travail sur l'argot des bouchers, qui est l'argot des mitrons aussi, qui sont tout un tas de vocabulaire utilisés pour ne pas être compris des classes dominantes. Voilà.
Oui, on doit te poser cette question. Ah, pardon. Non, mais on doit te poser la question souvent, mais du coup, ce terme de sabotage, il n'est pas bien compris, à tel point que maintenant, ou pas plus compris finalement, parce que maintenant on l'emploie plus et il fait peur dans l'employé. Hein. Là, par exemple, tous les mouvements, le Sainte-Soline, les soulèvements de la terre, tout ça, emploient le mot désarmement. Hein, finalement, est-ce que tu as pu discuter avec tous ces mouvements-là par rapport à ton ouvrage et au terme comment tu vois ça, toi? Est-ce que c'est seulement une histoire culturelle de ne pas être bien compris, saisi, ou qui fait à tel point peur encore qu'on n'ose pas, effectivement, parce que c'est l'histoire, ce sabotage, c'est quelque chose de très... Comment dire, c'est pas un terme péjoratif du tout, au contraire, c'est très, je trouve pas le mot, mais bon, peut-être me dire, mais peu importe, vous voyez l'idée, c'est magnifique, quoi, en fait. Ça remet à sa place l'ouvrier aussi, et la production, ça remet à la place l'ouvrier, et les compétences de l'ouvrier, c'est noble, quoi, comme terme. C'est pas du tout un terme à bannir dans notre vocabulaire, surtout maintenant. Enfin voilà, c'est juste ce que je voulais dire, ça.
Le terme de désarmement, je le trouve malin, parce qu'il rejoint finalement l'idée que le sabotage est une pratique antimilitariste. Ce que je disais, c'est qu'avec la mobilisation de la Première Guerre mondiale, les plans de sabotage étaient vraiment inscrits dans la lutte antimilitariste, et c'était l'idée d'un désarmement. Et on a retrouvé, et c'est réapparu dans le mouvement antinucléaire, où c'était vraiment, finalement, le mouvement antinucléaire était à la fois lié à l'écologie, mais aussi au mouvement pacifiste antimilitariste. Et le sabotage, de ce point de vue, était aussi utilisé sous la forme du terme désarmement, neutralisation, il y avait d'autres vocables. Maintenant, il a été effectivement abandonné parce qu'il a une connotation, il a pris avec la Seconde Guerre mondiale une connotation guerrière. Et aussi, finalement, du lâche. C'était le combattant irrégulier qui allait attaquer une personne, c'était celui qui tirait dans le dos, le saboteur. C'est l'espion qui avait ce double jeu, comme le travailleur qui mène ce double jeu au travail. Et là, en fait, avec la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'était le soldat qui jouait le double jeu, c'était l'infiltré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est peu employé. Et mais j'ai pas encore. Je suis en train d'y réfléchir parce que il faut que je fasse une liste d'arguments là-dessus parce que je suis en train d'y réfléchir. Ouais. Là, pour l'instant, comme ça à chaud, c'est ce que je répondrai. Désarmement est malin parce que voilà, ça s'inscrit bien dans l'idée du sabotage, mais ça passe et sabotage a pris une connotation guerrière et je pense que ça serait intéressant de le réutiliser aujourd'hui. Pour une raison précise, c'est que un des problèmes des luttes aujourd'hui écologistes, c'est qu'elles se coupent du monde du travail. Alors que le sabotage était pensé comme une revalorisation des compétences. Et une fois qu'on a les clés d'une entreprise, une fois qu'on connaît le travail, si on veut la désarmer, si on veut la saboter, eh bien, il faut connaître. J'avais participé à une action d'Extinction Rébellion à Lyon contre Arkema, où il fallait envahir le site. Et en fait, ça n'a pas pu se faire sans une étroite collaboration avec des membres de la CGT. Et en fait, ce qu'on a gagné en diversité d'actions dans les luttes écologistes, où on va s'attaquer tantôt à des entreprises polluantes, tantôt à faire un sit-in, on a gagné en répertoire d'actions. On a par contre perdu en connaissance du travail, parce que les luttes sont sorties du monde du travail. Et pour cette raison, le terme sabotage, qui était vraiment lié au monde du travail, a été utilisé qui désignait des formes de lutte moins précises et moins efficaces aussi parce que du coup rentrer dans Arkema tout caché, tout est réparé le lendemain. Voilà, dans l'idée du sabotage, c'est d'aller trouver un endroit un peu sensible, critique, pour que là ça pose problème quoi.
Juste deux remarques. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui des salariés dans le mouvement contre la réforme des retraites qui, d'une part, connaissent bien leur travail, d'une part, et qui ont décidé que c'est l'outil de travail leur appartenait, c'est quand même les gaziers et les électriciens. C'est-à-dire on a là un secteur où il y a des gens qui sont capables de couper le courant ou de couper le gaz sans produire des dégâts collatéraux extrêmement importants. Ils peuvent également remettre des coûts pour des petites productions comme les boulangers, etc. Et ça, je pense que c'est intéressant de le rappeler. La deuxième chose que je voulais dire, ici, on est dans la capitale de l'aéronautique. Alors, bien sûr, il n'y a pas de sabotage sur les lignes de l'A320, mais il y a une autre forme de quelque chose qu'on pourrait peut-être assimiler à du sabotage, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gros problème pour Airbus pour trouver des gens pour bosser. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes ingénieurs qui refusent de rentrer après des années d'école, qui refusent de rejoindre leur position de boulot parce qu'ils considèrent que l'avion est un outil pour tuer en temps de guerre, un outil pour réchauffer en temps de paix, etc. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ce pas de côté ou ce que Jules Vallès appelait le refus de parvenir, est-ce que ça doit être considéré comme du sabotage ou bien c'est une action qui est un peu dans l'air du temps avec toute une série de jeunes qui décident de faire un pas de côté, qui est très bien. Et avec un débat quand même qui se pose, c'est-à-dire est-ce qu'il faut déserter ou est-ce qu'il faut rentrer à l'intérieur de ces secteurs? Ça renvoie au film, peut-être vous l'avez vu, les uns et les autres, c'est l'établi, hein, c'est ce qu'avaient fait les organisations à la sortie de mai 68. Quelle est aujourd'hui la solution? C'est-à-dire, enfin, la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller travailler chez Airbus et le dénoncer de l'intérieur? Et ce n'est pas simple. Il ne faut jamais oublier que Maurice Papon a été le PDG d'Airbus il y a quelques années. Donc il y a des choses qui sont restées dans la gestion des ressources humaines. Ou est-ce qu'il faut réellement faire un pas de côté?
Les électriciens et les gaziers, ça me fait, c'est complètement les Robins des Bois, ça me fait penser énormément au sabotage. Ça rentre parfaitement dans le sabotage, puisque en 1907, il y a eu les gaziers de Paris, les électriciens gaziers de Paris, qui ont plongé Paris dans l'obscurité. Tous les becs de gaz se sont arrêtés. Et donc, on l'appelait d'ailleurs, à l'initiative de Émile Pateau, un syndicaliste révolutionnaire de la Fédération des gaziers électriciens de Paris, qui, on l'appelait le roi des ténèbres. C'était juste petite... pour dire que couper l'électricité, finalement, c'est quelque chose qui date déjà de la période révolutionnaire du syndicalisme. Voilà, ça, c'était pour la remarque. Ensuite, par rapport à cette idée du refus de parvenir, le refus de parvenir est plutôt lié à l'anarchisme individualiste. C'est l'idée, ce sont les anarchistes qu'on appelait les gens dehors, qui refusaient la société du travail et qui, de ce point de vue, tombaient dans une espèce de marginalité qui, peu à peu, par reprise individuelle en vol, en braquage, en travail de nuit, comme ils appelaient ça avec Alexandre Jacob, finissaient de la marginalité à la clandestinité. Et c'est très difficile parce qu'on tombe dans un cercle de violence sur soi-même, finalement, compte tenu de la répression qu'il y a derrière. Donc le refus de parvenir est plutôt individualiste. Et je pense qu'il faut rentrer... Moi, je ne veux pas me faire l'avocat de distribuer des bons points aux pratiques. Pas du tout. Mais pour bouger, on va dire. Pour bouger, il faut rentrer dans le monde du travail. Parce que sinon on ne se réappropriera jamais rien. C'est pas en refusant le travail qu'on se réapproprie les compétences. Il faut rentrer dans le travail, dans le monde du travail, et à l'intérieur essayer de penser un contre-modèle qui est finalement faire exactement comme Barthelby. Donc je présente au début du livre, je dis finalement le meilleur exemple du sabotage, c'est Barthelby, qui est un ouvrier, qui est un travailleur, un scribe, qui finit par à force de paresser, de dire je préfère ne pas, qui est pas clair sur ses revendications, qui finit d'ouvrier par squatter le lieu de travail et mettre le patron à la porte. Donc je pense qu'il faut rentrer dans le monde du travail pour mettre son patron à la porte. Mais là, le problème... Oui, bien sûr, là, le problème, c'est qu'on est dans une... Alors, si on prend l'exemple d'Airbus, on est dans des infrastructures représentatives d'un capitalisme exacerbé Enfin, je veux dire, c'est... Là, pour le coup, c'est un travail à jeter. Il n'y a pas à y rentrer, là, il faut lutter de l'extérieur. Enfin, pour Airbus, d'accord. Si on prend des choses comme Airbus, ou je ne sais pas s'ils fabriquent des fusées ou quoi. Bon, ça, faut le faire sauter, je ne sais pas. j'ai pas de réponse. C'est des trucs qu'il faut faire comme le clodo faisait, hein, contre des entreprises d'informatique, les ordinateurs comment on appelait ça ? IBM, oui, voilà. Il faut aussi des trucs... travailler de l'intérieur, là... la question, c'est la remise en question de l'activité scientifique, du choix scientifique qu'il y a derrière. C'est pas un travail au sens émancipateur du terme. La question est plus délicate pour les métiers du soin. Comment saboter un métier ? C'est quelque chose qui revient. La question de, finalement, là où la marchandise est l'humain, enfin, ce n'est pas une marchandise, mais maintenant, les hôpitaux considèrent ça comme ça. C'est plus le patient, c'est le client. Mais dans les métiers du soin, comment se manifeste le sabotage ? Et là, Pouget aurait une réponse, comme il a une réponse pour les serveurs dans les bars. Il dit, en fait, le sabotage, ça peut se penser par un manque de travail, donc par un défaut, mais ça peut aussi se penser comme un excès. C'est-à-dire prendre un peu plus longtemps soin de la personne. Au bar, servir plus que nécessaire. Offrir un verre de plus. Et à la poste, passer plus de temps avec la petite dame qui est un peu perdue, qui est la seule, qui n'a plus d'intermédiaire à qui parler. Donc ça peut prendre cette forme pour Émile Pouget.
Salut. Est-ce que tu peux nous parler, si tu le peux, bien entendu, du sabotage dans la cause animaliste, la cause antispéciste, par exemple avec l'Animal Liberation Front, ou les blocages et les destructions d'abattoirs aujourd'hui, si tu le peux?
Alors, je vais en parler un petit peu, pas trop m'étendre. La première fois que le terme sabotage apparaît en dehors du monde du travail, si ma mémoire est bonne, c'est en 1956 et c'est utilisé par les chasseurs, le hunting sabotage, je sais pas si tu connais les donc c'est anglais, c'est une association anglaise parce que la cause animaliste vient vraiment d'Angleterre. C'est par exemple le livre de Joseph Andras, son petit livre, je sais pas si ça te parle. Où il parle de l'expérimentation sur un chien en Angleterre. Enfin, en tout cas, la cause animaliste vient d'Angleterre. En 1956, pour la première fois, une association est fondée, qui est une association contre la chasse, où ils revendiquent le terme de sabotage pour qualifier leur action. Donc, ça prend la forme de... Et ils font carrément un manuel de sabotage de la chasse, en anglais, où ils expliquent comment fabriquer des faux produits odorifiants pour pouvoir perdre les chiens ou pour pouvoir ou des dispositifs sonores, pas les casseroles, mais des dispositifs sonores pour faire fuir les bêtes, des pièges pour piéger uniquement les chiens de chasse. Donc on a là la première apparition du terme, c'est vraiment dans les luttes animalistes. Avant les luttes nucléaires de 70 aux États-Unis et l'apparition du terme écotage, etc., avec Greenpeace un peu après. Donc c'est vraiment la chasse. Ensuite, je dirais, donc ça c'est vraiment pour l'origine dans les années 50, juste après deuxième moitié de 1950. Je dirais ensuite, aujourd'hui, l'état actuel des luttes, d'après les travaux d'Isabelle Chaumier, qui a travaillé sur, dernièrement publié un livre qui s'appelle Les violences politiques en France, qui est vraiment une étude très quantitative, avec de la statistique quantitative, où elle a essayé de balayer tous les actes de violence depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs milliers d'actes de violence qui sont recensés. Et à travers ce livre, La violence politique en France, elle explique que les nouvelles violences qui sont en train d'apparaître et de se multiplier en France sont ce qu'on appelle les violences sociétales, donc non plus les violences sociales dans le monde du travail. Et parmi les actions les plus présentes, ce sont les actions des animalistes qui vont s'en prendre à des boucheries, s'en prendre à des élevages, s'en prendre à toute la chaîne de l'exploitation animale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine explosion, notamment aussi contre les fourrures, contre l'industrie de la fourrure. Donc elle explique ça. C'est arrivé en France assez récemment. Les premiers groupes de militants animalistes datent du début des années 2000. Et c'est une influence à la fois anglaise et nord-américaine. Mais le berceau des luttes animalistes, c'est vraiment le milieu anglais. Voilà, il y a un beau livre de Joseph Andras dessus. C'est tout ce que je peux dire. Après, c'est tout ce que je peux dire là, je dirais.
Alors moi j'ai une petite question, c'est plutôt une blague. Est-ce que si je cultive mon jardin et je consomme les produits de mon jardin, donc je freine les bénéfices des grandes entreprises et je me réapproprie des compétences, est-ce que je peux avoir un petit point sabotage pour ça?
Je dirais la réponse est oui, parce que le sabotage, quand Émile Pouget, à la CGT, quand la CGT a adopté le sabotage en 97, le rapport d'adoption du sabotage s'intitulait « Rapport sur le boycottage et le sabotage ». Tout ça pour dire que le sabotage s'articule toujours avec le boycottage. En fait, le sabotage... le boycottage, c'est le sabotage du côté du consommateur. Et donc, en tant que consommateur, en boycottant une entreprise, parce que soi-même on s'est réapproprié des compétences, eh bien, on fait un sabotage côté consommateur. Donc, il y a le sabotage côté producteur et il y a le sabotage côté consommateur qui prend la forme du boycottage. Et d'ailleurs, ça prend même la forme d'une réappropriation. Ça prend à tel point la forme d'une réappropriation de l'outil, du travail et de la marchandise que le boycottage, souvent, était toujours lié. Donc, en tout cas, dans la brochure, dans le rapport du Congrès boycottage et sabotage, il y avait aussi une troisième pratique qui était la pratique du label ou de la marque de connaissement ou de la marque de connaissance. C'était traduit indifféremment les deux. Et le label, qui est-ce qui a inventé à l'origine le label ? Aujourd'hui, le label bio, mais qui a été réapproprié par les institutions. Et c'est les syndicalistes qui ont inventé le label pour dire qu'il y a posé sur les bouteilles en verre, je parle par exemple à Albi, cette bouteille vient de... c'était une marque syndicale. Vient d'une entreprise qui est autogérée par des propriétaires. Et tout ça pour éduquer les consommateurs. Donc il y a cette idée d'éducation du consommateur pour les orienter vers un boycott, enfin, pour les boycotter certaines entreprises et privilégier d'autres entreprises. Donc boycottage, sabotage, label comme marque de signature, ce sont tous des s'articulent du moins avec l'idée du sabotage. Le sabotage, il se pense pas tout seul. Il se pense aussi pas que du côté du producteur, il se pense aussi du côté du consommateur. Et puis il se pense du côté du consommateur et du côté de la réappropriation du producteur aussi. Il n'y a pas que l'aspect négatif de on va arrêter la production. Il y a aussi l'aspect positif de ça revalorise nos compétences et en revalorisant nos compétences, et ben on va signer notre marchandise. Et finalement, le sabot, c'est aussi une marque qu'on laisse avec la chaussure, comme une signature.
Bon, ben merci beaucoup, Victor. Et bonne soirée à toutes.
C'était Rencontre avec Victor Cachard autour de son livre Histoire du sabotage 1, des traînes savates aux briseurs de machines, paru aux éditions Libre.
Radio Livre.